Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas, parce que ça se voit pas forcément, et que
ça se dit pas
en fait.
Ça se dit pas.
Ça se dit pas. Ça ne se dit pas.
Ça se dit pas, 100 mg par jour pour voir la vie en velours. Ça se dit pas, un billet pour l'aventure.
Il n'y a que nous qui travaillons l'été. Tous les gens qui font des podcasts l'été, ils se barrent. Ils vont aux Seychelles.
Ah non, merde, ça c'est Hawaï.
Vas-y, depuis quand il y a des cigales chez moi? Elle est où? Elle a l'air proche en plus.
Ça se dit pas? Sky is the limit.
Bon, 13e épisode, deuxième prise.
Troupe de la personnalité borderline et autisme.
Des fois, je me dis que ça serait trop bien de pouvoir ouvrir sa boîte crânienne, tu sais, prendre son cerveau, le mettre dans une autre boîte de vacances du cerveau. Putain, mais c'est fou le nombre de femmes autistes qui ont été diagnostiquées bipolaires puis borderline après. Mais c'est un truc de dingue. Avant d'être diagnostiquée autiste, c'est ouf. Mais le nombre, mais c'est énorme quoi. Enfin, franchement, mais c'est dingue.
Toi et moi, on a eu un diagnostic borderline.
C'est ça. Donc, moi, vers mes 20-25 ans. Toi, un petit peu plus tardivement.
Même bien plus tardivement, vers 34 ans, 34-35 ans.
Et que pendant longtemps, on a pensé que c'était un diagnostic qui collait, en fait.
Qui nous correspondait.
Qui nous correspondait.
Alors, sachant, juste pour préciser, qu'avant ça, on a aussi eu le diagnostic bipolaire qui flottait un
oui.
peu.
Voilà. Moi qui a clairement été posée.
Toi aussi. Qui a été posée,
et
moi qui a été
avait...
évaluée. Et qui s'est avéré pour nous deux
pas concluant,
pas juste,
en fait.
Pas correct.
Mm.
Mais effectivement, le diagnostic borderline, c'est un diagnostic dans lequel on s'est reconnu.
Oui.
En fait, on s'est reconnu. Après,
il y avait aussi des choses qui collaient pas.
Oui.
C'est aussi ça qui a fait qu'à un moment donné, on s'est posé des questions. C'est que, en fait, notre travail en thérapie. Même si on apprenait des choses, etc., ça n'avait pas de conséquences vraiment sur notre vie quotidienne. On voyait pas d'amélioration de notre vie au quotidien, en fait.
Au-delà de ça, moi, j'ai trouvé que ces thérapies étaient aussi... Alors, j'ai eu moins de temps de thérapie, du coup, que toi, mais je sentais bien que ça me faisait violence aussi, en fait. Qu'il y avait des choses qui faisaient violence à un fonctionnement qui était vraiment inné chez moi, en fait, et qui ne relevait pas d'un trouble, en fait.
Oui, et qu'il y avait donc, des choses qui ne pouvaient pas vraiment changer. Autant il y avait des choses qui pouvaient effectivement évoluer et changer de par le travail de thérapie, autant il y a des choses qui restaient, qui étaient rigides, quoi.
C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qui est nous, en fait. Enfin, c'est là que la question de l'identité s'est aussi posée à ce niveau-là. Enfin, je veux dire, on est allé chercher finalement qui on était au-delà de ce trouble. On sentait bien que ça définissait pas tout et que ça définissait pas tous nos comportements, en fait, que tous nos comportements n'étaient pas reliés essentiellement à un trouble de la personnalité.
Oui, après, ce qui est trompeur aussi, c'est que effectivement, le TPL aussi, moi, j'ai moins de critères aujourd'hui que j'en avais il y a des années, en fait. Parce que effectivement, il y a des choses qui se travaillent en thérapie, tout ça. Oui, et plus je travaille sur mon TPL, plus finalement ça devient compliqué de différencier ce qui est de l'ordre du TSA potentiel ou du TPL. Mais de toute façon, moi je suis assez intimement convaincue d'avoir les deux imbriqués, quoi, en fait. Lié.
En fait, je suis en train de me dire que
Déjà, en fait, enfant, apparemment, on n'avait pas des comportements appropriés, en fait, c'est ça. Fallait pas avoir d'attachement aussi intense. En fait, on avait déjà des comportements inappropriés dans l'enfance. Et ça, ben, c'est un peu la description de l'autisme aussi, enfin, souvent, quoi.
Ce truc de l'enfance où il y avait des choses en fait qu'on ressentait des particularités qu'on avait dans la petite enfance qui du coup collent pas avec un trouble de la personnalité qui se construit en fait au long cours, qui se construit voilà, notamment avec l'invalidation émotionnelle, etc. pour le trouble de la personnalité borderline. Mais en tout cas, voilà, nous, il y avait des choses qui étaient présentes vraiment très 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 jeunes en fait. Et souvent des choses, alors encore une fois, je pense à mes stéréotypies au steam, qui pour moi c'était quelque chose de présent. Je faisais donc des mouvements répétitifs de façon très prononcée dès l'enfance, qui, malgré les injonctions de l'extérieur de mes parents, etc., n'ont jamais pu être supprimées. Et que je fais toujours aujourd'hui, et dont j'ai besoin aujourd'hui, en fait.
Oui, ça par exemple, ça n'a rien à voir avec le trouble borderline. Enfin,
Exactement. Donc
voilà.
ça
Non,
fait
mais c'est ça,
partie.
c'est qu'il y a des choses en fait dans nos comportements qui quand même se distinguent du trouble borderline. Après, il y a des choses qui se confondent clairement. Et comment faire la distinction? Ça a été super dur en fait de faire cette distinction-là quand même.
Bah parce qu'en fait, on a aussi compris que la neuroatypie, quand elle n'était pas détectée, dans l'enfance, c'était un terrain très très favorable au développement d'un trouble de la personnalité borderline, en fait. C'est ça aussi.
Oui, et le trouble borderline et l'autisme se ressemblent tellement aussi. C'est
Oui.
fou quand même que dans les critères, ça se ressemble énormément. Et je pense que des critères, des traits autistiques peuvent très bien être amplifiés et vraiment se confondre avec des critères borderline. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et c'est comme s'ils s'imbriquaient entre eux, en fait, pour créer un monstre encore plus volumineux et qui prend encore plus de place dans ton identité, en fait, finalement. Et comment distinguer ces choses-là? Moi, j'ai eu vraiment besoin de comprendre ce qui relevait de l'un et de l'autre.
Borderline. Trouble de la personnalité limite. TSA.
Qui suis-je?
Trouble du spectre de l'autisme. Autiste. Borderline.
À quoi je ressemble vraiment?
Bonne chance et ne merdez pas.
Va prendre ton lithium.
Voilà, dans notre parcours, on a bien senti que de prendre conscience de l'autisme, ça a apaisé, en fait, et ça a presque fait disparaître, entre guillemets, des critères du
Du trouble,
TPL, du
ouais.
trouble borderline.
Le vide identitaire, voilà, cette espèce de trou noir hein, dont on parle dans l'épisode 3 d'ailleurs. C'est vrai que nous, alors voilà, encore une fois, pour pas juste se contenter de dire oh, on a compris qu'on était autiste, du coup ça a réglé tous les problèmes identitaires, en fait, c'est pas juste le fait de comprendre qu'on est autiste, c'est le fait de comprendre son fonctionnement, ses limites et ses besoins. C'est tout ça en fait, et les articulations entre tout ça qui font que ce vide existentiel et identitaire va s'apaiser en fait. C'est pas juste ce diagnostic, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais un diagnostic ça change quoi, etc. Mais ça change tout ça en fait, ça change la compréhension de tout ça. Et c'est vrai que c'est important à préciser.
Et le vide est aussi l'image de soi,
Oui.
en fait. L'image de soi. Enfin, il y a un moment quand on comprend qui on est. Et là, en fait, je parle directement hein, de l'identification au trouble, hein, en fait, finalement. Alors, je ne vais pas parler d'identification au trouble en parlant d'autisme, parce que l'autisme n'est pas un trouble. Donc, l'autisme, pour le coup, moi, je m'y identifie clairement, quoi.
Oui, l'autisme, c'est vraiment une particularité du neurodéveloppement. Voilà, encore une fois, c'est très différent du trouble borderline qui avait vraiment
qui se construit.
qui se construit, oui.
Oui, et
Au
en
fur et à
même
mesure que
temps.
la personnalité émerge, en fait.
Et en même temps, ça va tellement. Enfin, je veux dire, ça devient ta personnalité, en fait. Alors,
Oui.
on appelle ça un trouble de la personnalité. Donc, ta personnalité est troublée. Mais c'est ta personnalité, en fait. Enfin,
Ouais.
Moi, je pense que je serai borderline toute ma vie. Enfin, je suis borderline, en fait. Et même si, du coup, avec la compréhension de l'autisme, on s'est rendu compte que, bah, du coup, il y avait des critères qu'on pensait liés aux troubles borderline qui, en fait, sont liés à l'autisme. Et du coup, bah, ça diminue le nombre de critères qu'on a liés aux troubles borderline. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on est toujours borderline ? Parce qu'on n'a plus 5 critères sur 9, enfin, on n'a plus 8 critères sur 9, mais peut-être 4 ou 1, ou, tu vois, enfin...
Non, mais c'est ça, on n'a plus le même nombre de critères. En même temps, il y a des choses qui sont toujours constitutives de notre personnalité.
C'est ça, enfin,
je veux dire... le seront toujours. Voilà, moi, si je devais, encore une fois, dire une chose qui me reste du trouble borderline, c'est vraiment l'aspect affectif et l'insécurité affective. Et ça, effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que cette fragilité-là sera toujours présente et qu'elle ne bougera pas. Après, encore une fois, peut-être que dans 10 ans, je me rendrai compte qu'en fait, ça aura changé. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est... Et l'aspect affectif, c'est quand même un des aspects principaux du trouble borderline. Donc voilà, même si je ne vis plus cette insécurité affective de la même manière que je la vivais quand j'avais 18, 20, 25 ans... Elle est toujours là.
C'est quand même une base.
Je sens qu'elle est toujours là, qu'elle a ses causes aussi, ses raisons dans mon enfance, et notamment voilà des besoins qui n'ont pas été pris en compte. Mais voilà, effectivement, ça, j'ai l'impression que c'est une chose qui, même s'il me reste peut-être un seul critère du trouble borderline qui est celui-là, ben celui-là, il est là, il est présent en fait.
Mais moi, c'est. Bon, après, il y a ce truc aussi de... L'insécurité affective, c'est pareil. Il s'exprime différemment chez moi que chez toi. Mais c'est pareil, c'est un truc qui reste. Et aussi, enfin voilà, je le répète et je fais que le répéter, mais le rejet de soi. Moi, ça, c'est un truc qui revient et qui émerge, enfin qui revient souvent en fait.
Oui, hein, non, mais moi aussi, en fait.
Et puis du coup, ça montre aussi à quel point, enfin voilà, ce processus de diagnostic est défectueux, en fait. Enfin, je veux dire, tu peux pas dire du jour au lendemain que tu n'as plus de troubles de la personnalité. Alors, ok, ça correspond au comportement et à l'impact que ça a dans ta vie et dans tes relations et dans comment tu organises tes rapports aux autres, à la vie, et voilà. Mais n'empêche, même si... Moi, je suis persuadée qu'un jour, même si un jour, je ressens plus autant... Enfin, je ne réagis plus autant intensément au rejet ou la dépendance-indépendance. Enfin, je sens quand même que c'est une base qui sera toujours en moi, en fait. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais... Donc, les gens qui te disent, oui, est-ce qu'il faut pas t'identifier à ton diagnostic, à ton trouble, machin... Mais ta gueule, en fait, enfin, tu sais pas ce que c'est. C'est pas... Moi, je vois pas ça comme un problème, en fait, tu vois.
Après, encore une fois, il peut y avoir des personnes pour qui ça a été un problème parce que le fait d'être diagnostiqué... tel truc ou tel truc, ça a pu avoir des conséquences dans leur vie vraiment négatives et néfastes. Mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, ce diagnostic d'autisme, il a vraiment eu un impact identitaire très très fort. Et donc, c'est pour ça que les gens qui peuvent dire « oui, mais au fond, que tu aies le diagnostic officiel ou pas, que tu sois... » Si ou ça, machin, qu'est-ce que ça change?
Ça change tout.
Oui, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais ça change tout.
Après, la stigmatisation qu'il y a par rapport justement aux idées qu'on se fait de certains troubles ou de certaines conditions neuro comme l'autisme ou le TDAH, bah, c'est réel. Enfin, moi, je veux dire, je l'ai, ce truc. Enfin, alors, autant pour le trouble borderline, j'étais tellement soulagée, en fait, d'avoir un premier élément de réponse que, du coup, je l'ai dit à tout le monde et j'avais besoin, en fait, tu vois, de dire, OK, j'ai mis le doigt sur un truc, c'est important, même si tout le monde en avait rien à foutre, en fait. Voilà, ça, c'est autre chose encore, mais... Mais autant l'autisme, ben, j'ai du mal. Enfin, c'est ce qui participe aussi, enfin, ce validisme intériorisé que j'ai, c'est ce qui participe au doute et au questionnement qui revient continuellement, alors que je vois bien en fait que je suis autiste et que mon père est autiste et que, enfin, je veux dire, il y a tellement, je veux dire, comment je peux encore avoir de doutes, tu vois. Mais ce truc de d'avoir peur de faire les démarches d'un diagnostic officiel parce que...
Mais ça, c'est aussi une réalité qu'on montre pas, c'est-à-dire que les gens, au fond, qui disent comme quoi on court après des diagnostics qui sont pas forcément réels et tout, en fait, on montre pas à quel point il y a de doutes, à quel point je t'ai entendu pendant ces dernières années, cette année et demie, cette dernière année et demie, me dire mais je suis pas autiste, mais si ça se trouve en fait j'ai juste un trouble border, mais si ça se trouve en fait machin,
j'ai du trauma.
Voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, on est vraiment encore une fois dans une démarche, une recherche sincère de ce qui se passe en fait. On n'est pas.
Oui, et puis comme si c'était, tu vois, quel serait l'intérêt ? Enfin, je veux dire,
oui.
Ça fait je sais pas combien de temps là que je répète, que je te répète aussi que. L'autisme, c'est de la merde et que j'en peux plus d'être autiste en fait et que c'est difficile.
Ça règle pas, c'est pas parce que tu comprends que t'es autiste que ça règle tous les problèmes.
C'est ça, non mais c'est ça, tu sais. En fait, les gens voient ce qu'on veut bien montrer encore une fois. Fantastic Planet.
Ouais. Poly mais grave.
Ça se dit pas.
Dieu m'a donné la foi.
Oui.
En même temps, je suis soulagée au niveau identitaire, justement, de comprendre qui je suis et de comprendre mes fonctionnements et de pouvoir mieux composer, un peu mieux composer dans ma vie et dans mes relations et dans mes activités. Et d'un autre côté, je me dis, non, il faut que je continue de cacher ça parce que, en fait, c'est tellement stigmatisé dans la société et ça va me foutre des bâtons dans les roues si je veux faire des trucs et machin. Bon, sauf qu'en fait, maintenant, ce que je veux mettre en place, et je vais me battre pour ça, ce sera en accord avec qui je suis, en fait.
Mais c'est ça aussi, c'est que par rapport à la réalité de ce qu'on vit, il y a souvent de la part des, que ce soit du milieu médical ou des personnes autour de nous, une grosse simplification du truc, en fait. Ils ne voient pas à quel point c'est complexe, à quel point tous les aspects du truc est... Et à quel point ça peut être complexe aussi justement de reconnaître complètement son fonctionnement et de à la fois de ce qui permet de résoudre un certain nombre de choses et en même temps d'avoir une espèce de encore une fois une invalidation encore une fois comme si on n'en avait pas eu assez une invalidation du milieu médical, une invalidation officielle. Alors que clairement le milieu médical est quand même à la ramasse par rapport à ce qui se passe dans la réalité.
Encore une fois, comment quelqu'un qui ne me connaît pas va affirmer qui je suis, tu vois, enfin je veux dire, il n'y a que moi en fait finalement qui...
Oui, mais ça à la limite on pourrait te répondre oui mais un médecin forcément il ne s'est pas quitté, donc c'est même pas une question de ne pas savoir qui tu es, c'est déjà une question ne serait-ce que d'être, enfin, excuse-moi je repense à mon rendez-vous au CRA, une question ne serait-ce que d'être à jour déjà sur ce qu'est l'autisme et notamment l'autisme invisible chez les personnes assignées femmes ou des femmes, déjà ne serait-ce que ça, déjà pour commencer quoi.
Et juste hier soir, c'est fou, je ne t'avais pas envoyé ce message, je me pose la question très juste de oui, c'était une question très juste et très judicieuse et je pense que tu vas approuver. J'ai survolté, pardon, je suis crevée. Je me disais que c'est quand même fou que le diagnostic borderline soit en majorité entre guillemets, féminin, et que les diagnostics autistes soient en majorité masculins. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à creuser là-dedans?
Oui, non, puis je veux dire, les garçons préfèrent dire qu'ils sont autistes, tu comprends, c'est pas de leur faute, alors que les nanas, elles sont borders, c'est de leur faute, quoi, il y a un truc qui déconne, tu vois.
Après, je voulais, du coup, je repensais à un truc, là, je voulais revenir sur le fait que, voilà, l'identité, elle est... Moi, je pensais que c'était quelque chose qui était immuable. Alors que l'identité, ça peut aussi être quelque chose des... Enfin, c'est quelque chose d'évolutif, en fait. Et comme... Enfin, et c'est encore différent des bases de construction de la personnalité, en fait. Ce sont encore deux choses différentes. Et à quel point les choses sont pas linéaires dans la vie. Tu vois, il y a des moments où... voilà, moi, le trouble borderline, je sais qu'il m'atteint moins aujourd'hui et parce que j'ai compris que j'étais autiste. Et que j'avais des fonctionnements, un fonctionnement neuroatypique et que je compose mieux avec, mais il m'atteint moins aussi parce que je le garde à distance. Tu vois, enfin, je ne dis pas certaines. Il y a certains contextes, certaines situations qui vont le réveiller. Enfin, je veux dire, on n'est pas à l'abri d'un deuil, de plein de contextes différents qui vont venir déclencher, tu vois.
Oui, et puis. Aussi, on apprend. Enfin, il y a effectivement les contextes déclencheurs qu'on va éviter, mais il y a aussi quand même. Enfin, voilà, moi, clairement, entre mes 25 et 36 aujourd'hui, j'ai appris, en fait. J'ai appris, j'ai expérimenté. Si je prends l'exemple, par exemple, de la dysfonction exécutive, qui est très souvent associée à l'autisme. Qui est donc cette espèce de paralysie, en fait, qui fait qu'à un moment donné, on va être incapable d'accomplir une tâche, on va être incapable de bouger. C'est quelque chose que je vivais très, très, très fortement quand j'étais enfant et particulièrement quand j'étais adolescent. Voilà, mon coloc de l'époque, quand j'avais 20 ans, pouvait me trouver dans des états mutiques et paralysés pendant des heures. Il venait me voir à un moment donné, il me demandait si ça allait, je lui répondais à peine, et il revenait une heure après, j'étais toujours au même endroit, j'avais pas bougé. Bon, ce qui d'ailleurs, il semblait accepter avec une certaine... une certaine compréhension. Bon. Et, parce que je pense qu'il est autiste aussi. Mais bon. Donc voilà, c'est des choses aujourd'hui qui m'arrivent encore, mais de manière beaucoup moins prononcée, en fait. Voilà, ça m'arrive moins de rester paralysée pendant des heures. Ça va m'arriver dans certaines situations, notamment si je suis fatiguée ou submergée.
Oui, mais maintenant, tu sais ce que c'est. À l'époque, tu savais pas ce que
c'était. C'est très important pour moi de savoir ce que c'est. Bah, tiens, voilà, un exemple qui m'est arrivé très récemment. J'étais à une terrasse de café. Donc avec des gens bienveillants de ma famille, et en fait j'étais tellement fatiguée que je n'arrivais pas, j'avais envie d'aller aux toilettes en fait, et j'étais tellement épuisée que c'était impossible pour moi de me lever, et rien que le fait de devoir trouver le chemin en fait, de me faufiler entre les tables pour aller jusqu'à l'intérieur du restaurant pour aller aux toilettes, c'était insurmontable, et donc j'avais envie de pisser depuis un petit moment et j'étais incapable de me lever. Et en fait, c'est aussi une chose qui a changé aujourd'hui, c'est que je demande de l'aide, en fait, dans ces cas-là, et que quand soit les gens me le proposent, parce qu'il y a des gens particulièrement bienveillants qui vont voir que je suis dans une situation compliquée, mais ça reste quand même assez rare. Sinon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux demander, bah voilà, est-ce que tu peux m'accompagner, parce que j'y arrive pas, en fait. Voilà, et chose que je m'interdisais de faire avant, parce que je me disais, putain, vas-y, t'as 35 ans passé, faut pas déconner.
Ouais, c'est encore, pas on commence à le faire, mais
ouais,
c'est pas toujours évident, et enfin, de... Moi, je sais que, enfin, voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, les crises que je peux faire, je les ai jamais montrées, et ça aussi, enfin, voilà... Quand tu dis à quelqu'un que t'es autiste, on te dit « Ah bon ? Mais ça se voit pas, mais t'as pas l'air autiste, machin. » Mais ouais, mais en fait, il se passe quoi si je te montre une crise autistique,
si tu
en
t'autorises
fait,
à montrer...
Si je m'autorise à vivre une crise autistique en plein milieu Ben, je peux te dire que les choses s'arrêteraient net en fait, et que voilà, mais je me suis toujours empêchée de le faire, et je sais pas comment j'ai contenu, mais derrière, voilà, je cassais tout chez moi. Mais ça, tiens, il faut qu'on le dise aussi, la différence de réaction qu'il y a quand on dit qu'on est borderline,
oui,
où du coup les gens ne réagissent pas. Il y a un gros blanc quand on dit qu'on est borderline,
une gêne.
Je pense que c'est un diagnostic qui fait peur.
Oui, on a les images de psychopathes un peu, ouais, dans les séries télé, etc. Ouais.
Les harceleurs.
Les manipulateurs. Les
manipulateurs. Voilà. Après, du coup, les gens, voilà, ça les fige un petit peu. Mais tu vois, c'est fou. J'ai pas eu honte de ce diagnostic-là.
Alors qu'il est quand même très stigmatisant.
Alors qu'il est quand même très... voilà.
C'est aussi un trouble qui est très courant.
Et à côté, ouais, mais c'est aussi un trouble que les gens connaissent pas. Hein,
comme, oui, mais ils, voilà, ont une image souvent erronée. De...
Et voilà, quand tu dis que t'es autiste, ah bon, mais t'as pas l'air. On est,
oui,
tous un peu autistes.
Quand on dit qu'on est autiste, quoi, généralement, la première réaction des gens qui sont pas renseignés, c'est de ne pas vraiment nous croire, en fait. Mm-hmm. C'est plutôt ça, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Comme si on disait ça, ma foi.
Ouais. Après, ça peut arriver pour le diagnostic borderline aussi.
Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus rare.
Moi, on m'a dit, ah non, pour moi, t'es pas borderline. Bon, ok.
Oui, après, il y a des gens qui disent tout un tas de...
Mais non, mais c'est des gens qui connaissent pas... Ils sont pas renseignés, en fait. Ouais. Après, le diagnostic borderline, c'est un diagnostic qui, je trouve, est très dur. Alors, tous les diagnostics sont durs à recevoir, j'ai l'impression, quand même. Tu vois, mine de rien, même si ça nous apporte un soulagement au niveau de la compréhension et des clés, en fait, pour fonctionner. Il y a quand même un coup de massue. Moi, je sais que j'ai toujours... Enfin, le diagnostic borderline, il a été assez violent, quand même. Et je pense que j'ai très, très peur d'avoir un diagnostic d'autisme ou de TDAH,
officiel,
ou les deux officiels, oui. Mais ça, c'est relié au fait que dans nos sociétés, voilà, il y a de la psychophobie, du validisme, et que c'est dévalorisant, et que ça te... T'es inférieur, en fait.
Mais je crois que c'est pour cette raison même que certains médecins rechignent à donner un diagnostic d'autisme, ouais, à des patients chez qui c'est pas forcément visible. C'est qu'ils pensent que ça va peut-être les desservir, en fait.
Ouais.
Sauf que c'est pas à eux d'en juger, c'est pas à eux de prendre la décision.
Ouais,
en fait,
je pense qu'il y a aussi le fait que voilà, faut pas non plus. Alors ça, j'en sais rien, c'est ma pensée, mais
tout diagnostiquer, enfin genre l'idée que sinon tout le monde aurait un diagnostic de quelque chose, quoi.
Non, l'idée qu'il y a une neurodiversité, en fait,
oui,
qu'il n'y a pas une norme valide, tu vois, et que c'est de la c'est du bullshit, en fait.
J'ai pas envie d'aller me coucher parce que j'ai pas envie d'être à demain.
Ah, les voix du cerveau sont impénétrables.
Qu'est-ce que je voulais dire? À part dire des conneries. Conneries.
Allô, que je voulais dire? Ici Kiwi des Sables, la banane des neiges. Vous me recevez?
Kiwi!
Mais du coup, il y a un truc dont on parle pas beaucoup, je trouve, et je sais pas si tous les borderline partagent ceci. En tout cas, je sais que moi, j'aimerais être quelqu'un que je suis pas. J'ai toujours voulu être quelqu'un que j'étais pas. Est-ce que c'est parce que, du coup, je ne vis pas pleinement qui je suis? Et je pense qu'en vrai, c'est ça. Ou est-ce que c'est parce que je me déteste, en fait, tu vois. Et comme je disais, hein, le trouble de la personnalité borderline, c'est le trouble du rejet de soi. Donc, c'est un mélange des deux, du coup. Je m'aime pas, donc je me rejette. Et du coup, je veux être quelqu'un d'autre. Alors que si, en fait, et du coup, je me sens mal parce que je m'investis pas de ma propre identité. Et c'est horrible de ressentir ça. Et je pensais ne plus trop le ressentir parce que j'ai compris tellement de choses. De comprendre l'autisme, de comprendre mes traumas, de comprendre tout ce qui se rattache à ça et pourquoi je peux ressentir ça. Ça l'a quand même nettement diminué, mais des fois, ça revient. Des fois, ça revient et ça fait mal, quoi. C'est pas... C'est désagréable.
La vie, l'identité, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Et qu'il n'y a pas de... Selon les individus et leur parcours de vie, en fait, ça va complètement... Ça va avoir un impact complètement différent.
Oui, puis on reste humain, en fait. Tu vois, même si, en fait, on peut... même si une aura typique ou un trouble de la personnalité peut faire partie de l'identité...
ça bouge.
Ça, non, mais ça veut pas dire qu'on est que ça non plus. Oui. Enfin, on est des êtres humains et on vit... on peut vivre des traumas, on peut vivre des histoires, des aventures, faire des choix comme tout le monde. Enfin, on est des humains, en fait, avant tout. Et c'est en ça aussi qu'on n'a pas énormément de différence avec une personne neurotypique ou... enfin, je veux dire, on vit, quoi, tout simplement. Donc, on apprend avec l'âge aussi à... interagir, à se respecter, enfin, ça paraît tellement logique. Et après, voilà, notre capacité d'adaptation et de confrontation aux choses, elle est différente.
C'est ça.
Elle est différente et des fois, elle est difficile.
Moi, par exemple, j'ai longtemps cru que j'étais autodestructrice, mais en fait, maintenant, avec le recul, si je prends en compte la surcharge, l'angoisse vis-à-vis des changements, de tout ce qui peut me faire flipper, etc., bah, en fait finalement, ce que je prenais pour de l'autodestruction, je suis même pas sûre que ça en était, en fait.
Les comportements de violence envers soi-même chez les autistes, ils sont pas du tout liés à la même chose. Là, pour le coup, quand même, il y a une différence. Enfin... Les comportements violents envers soi dans l'autisme, c'est surtout de la surcharge, hein, généralement. Enfin, alors que dans le trouble borderline, il y a quand même un truc de... on veut se détruire, clairement, on veut se détruire parce qu'on ne s'aime pas, en fait. Après, dans les comportements où on cherche l'attention des autres et tout, oui, bon, alors ça, déjà, ça peut être tout être humain hein, qui fait ça, donc voilà. Mais il y a quand même un truc typique borderline là-dedans, enfin... Moi, souvent, j'ai deux trucs différents, tu vois. Quand je dis que mon côté border, c'est quand je cherche vraiment l'attention, bah, c'est ça. Parce que sinon, en fait, les autres, en fait, tu vois, d'avoir l'approbation des autres ou d'avoir... Enfin, étrangement, c'est un truc dont j'en ai royalement rien à foutre, de base, tu vois. Mais quand je suis dans un truc où je me juge et où je me dévalorise parce que je pense qu'il y a le trouble borderline qui attaque fort, sévère. Ouais, je sais pas, c'est complexe, hein, c'est difficile.
C'est vrai que si on prend l'attachement, par exemple, alors effectivement, il y a le côté dont on parlait, très borderline, de l'insécurité affective, qui peut donner lieu à des comportements voilà, de harcèlement, de manipulation, de possession, etc. Mais chez les autistes aussi, il y a à la fois une incompréhension des codes de communication, mais aussi une insécurité du fait de pas comprendre justement ce qui se passe au niveau de la communication, qui peut finalement créer un peu les mêmes... la même insécurité affective en tout cas.
Après déjà, je pense, tu vois, on parle d'attachement... déjà, les borderline ou les autistes n'ont pas un trouble de l'attachement, ils ont un attachement, un type d'attachement particulier. Donc, ils n'ont pas un attachement sécure, mais ils ont quand même, ils n'ont pas avoir un trouble de l'attachement, c'est encore différent. Et ça, les gens confondent aussi, et ça m'énerve.
Ben bah, vas-y, donc faisons la différence. Un trouble de l'attachement, qu'est-ce que c'est?
Bah, un trouble de l'attachement, c'est la difficulté à créer de l'attachement.
De l'attachement,
oui.
Alors
que quand on a un attachement insécure,
c'est pas la même chose.
Ou un attachement désorganisé, bah, c'est quand même un type d'attachement. Ça veut dire que l'attachement se fait, lien se crée, en fait. Et du coup, voilà, les deux choses sont différentes. Donc ça m'énerve quand j'entends dire oui, mais le trouble de l'attachement. Non, j'ai pas un trouble de l'attachement. J'ai un type d'attachement particulier. Et d'ailleurs, les borderline et les autistes ont souvent le même type d'attachement, et c'est le type d'attachement désorganisé, en fait. Donc, à la fois, besoin de créer du lien et en même temps, tenir à distance.
À distance, oui.
Voilà. Et ça, par exemple, ben, on le retrouve chez le borderline et chez l'autiste, souvent.
Ce qui peut aussi flouter le diagnostic.
Complètement. Mais ça, mais comme les comportements, comme l'obsession.
Ouais.
les fameux intérêts spécifiques des autistes ou l'obsession relationnelle
oui.
qu'il va avoir.
Voilà, moi je pensais plutôt à ça.
C'est une obsession qui va pas avoir les mêmes. Pas forcément avoir les mêmes raisons.
Et pas les mêmes attentes.
Voilà, chez un borderline, ça va être une insécurité affective, avec une attente de sécurité, d'attention, d'amour, etc. Là où chez l'autiste, finalement, ça va plus être une fixation. Enfin.
Comment on l'explique chez l'autiste? Oui, c'est difficile, hein.
C'est pas facile à expliquer.
C'est difficile. Le côté obsessionnel chez l'autiste...
En tout cas, un intérêt plus à un moment donné de partager avec quelqu'un sur un sujet, ou un enthousiasme, en fait. Je sais pas, ça va pas être le même...
Ouais, alors moi, je pensais au côté obsessionnel...
Encore une fois, c'est flouté, parce que je pense que chez les autistes aussi, il y a une dimension affective qui rentre en compte.
Bien sûr,
enfin,
parce qu'on reste
humain.
On
peut pas tout...
Non, mais après, je pensais au côté obsessionnel chez l'autiste... de faire une fixette sur une chose, tu vois, et de du coup complètement oublier que la personne est une personne, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Moi j'ai ce truc là où je vais figer sur un aspect de la personne et ça va me rendre dingue.
Mais
en soi, ben je sais pas faire une fixette sur le rire de quelqu'un. Moi j'ai un truc, mais il y a certains rires, il y a des personnes dans ma vie qui ont un rire que je voudrais capturer et garder pour moi, en fait, tu vois. Mais et ça n'a rien, et du coup j'en oublie qu'ils sont des personnes aussi, tu vois. Et c'est un exemple, hein. J'essaye de l'imager parce que c'est très dur à expliquer, mais
après par exemple, mais c'est différent, il y a des choses qui vont me perturber. Par exemple, on en parlait la dernière fois, je crois, un motif sur le pull de quelqu'un va faire que je vais complètement focaliser dessus et ça va complètement perturber la conversation que je vais avoir avec la personne. Mais du coup, c'est...
Mais c'est de cette obsession-là que je parle.
C'est une forme d'obsession, mais oui, alors effectivement, oui. Ça, ou moi, c'est des lumières. J'ai une obsession pour les lumières. Je peux fixer sur les lumières ça très longtemps.
Non, mais
et en oublier qu'il y a quelqu'un qui me parle à côté.
Et ça, mais du coup, quand ça touche aux personnes... Les personnes peuvent s'en... Tu vois, ça peut les
heurter.
Les heurter.
Genre, tu les
ou leur
pas...
Faire, ou alors leur faire peur, tu vois.
Genre, pourquoi tu fixes mon pull comme ça?
Ou pareil, des personnes qui sont belles. Moi, ça m'arrive de trouver des personnes tellement belles et de leur répéter. Et ça les met super mal, alors que j'attends rien derrière, tu vois. ça peut porter à confusion. Et quand on a ça, plus un trouble de la personnalité borderline, c'est un combo, mais un shitty combo encore, hein. Tu vois, quand les deux se mixent, en fait, quand il y a des attentes de sécurité affective, plus en plus une obsession sur un trait en particulier, ça rend dingue, quoi. Ça rend dingue. Mais justement, c'est des choses qui peuvent... on parlait de choses qui nous dépassent, qui nous font peur, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et moi, je sais que j'ai tendance à essayer de tenir à distance et du coup de me tenir à distance de moi-même, en fait. Et c'est dur de faire ça, finalement. Mais c'est aussi pour ça que je veux faire du clown. Nique sa mère. Je vais être sur scène et je vais faire ce que je veux. Et je vais dire aux gens, vas-y, rigole. Allez, rigole encore. Et ils vont pas comprendre, mais on s'en fout parce que ce sera un spectacle. Mais tu vois, dans la vraie vie, ça perturbe les gens et ça fait peur aux gens. Et je peux comprendre parce que moi-même, ça me fait peur, en fait. Moi-même, j'ai peur de moi-même, en fait.
Mais de quoi, exactement ?
Ben, de ce que je viens de décrire, là, tu vois, du côté... Pourtant, je sais bien que je ferai de mal à personne, tu vois.
Oui.
Ouais, et pourtant, je me dis, j'ai déjà dû faire du mal. Je sais que j'ai été toxique dans mes relations.
Oui, mais ça, moi aussi.
Tu vois, j'ai voulu emprisonner l'autre, clairement. Hein, j'ai voulu l'accaparer juste pour moi. Et ça, je pense qu'il y avait un côté et autiste et borderline, les deux. Et ça, c'est horrible. Tu vois, mais aujourd'hui, j'en suis conscient, en fait, et je referai plus ça. Donc est-ce que c'est en ça que je peux dire que je n'ai plus de trouble de la personnalité? J'ai toujours une personnalité borderline, mais je n'ai plus le trouble du comportement. On verra si ça revient, tu vois, mais anyone can tell you there's no more road to ride. Everyone will tell you there's no place to hide. This
Slow laws or rules to enchain your life. But the ones who do make it, the ones who can take it so bad, you made it out alive. Everyone loves the fun, everyone comes by. In the wind I crunch, I want to die.
ça t'a... T'as pas peur de toi, toi ?
Plus maintenant. Avant, ouais, j'avais très peur de moi.
Pourquoi ?
Pour la même chose que ce que tu décris, je pouvais être très possessive, parce que en insécurité, je sais que j'ai eu des attitudes toxiques avec des gens. Mais en fait, je me suis quand même rendu compte assez vite que ça correspondait pas du tout à qui je voulais être, en fait. Alors, ça veut pas dire que pour autant j'arrivais. Mais en tout cas, je sais qu'assez tôt, je sais. Déjà, le fait de savoir que ça correspond pas à qui tu veux être, bah, déjà, t'arrives à limiter un peu l'impact. Après, ben, en fait, pour lutter contre ça, moi, je me suis beaucoup fait mal à moi-même. Parce que bah, en fait, quand tu te fais mal à toi-même, l'automutilation, c'est quand même aussi pour pas faire mal aux autres, en fait. Soit parce que tu pètes les plombs et plutôt que de t'en prendre aux autres, bah, tu t'en prends à toi. Soit pour contenir un truc qui veut sortir, un espèce de truc un peu monstrueux que tu maîtrises pas, en fait. Et
ça fait peur. Moi, ça continue, c'est quelque chose qui continue de me faire peur. Genre, je veux dire, quand je parle de rejet, c'est ça aussi, tu vois, de pas vouloir faire du mal à l'autre et du coup on se fait du mal à soi. Sauf que c'est pareil, en fait. Enfin,
oui, ça règle pas le problème, hein, clairement.
Ben, ça règle pas le problème, et pourquoi tu te ferais du mal? Enfin, je veux dire, on devrait autant tenir à nous-mêmes qu'aux
bien
autres.
Bien sûr, bah oui, mais on a une faille, voilà, on a une faille narcissique aussi à la base, je pense. Mais après, je sais pas, moi j'ai expérimenté ça très très tôt, en fait, aussi. Donc du coup, ça m'a laissé le temps de. Enfin, il y a quand même un truc clairement qui s'est apaisé en grandissant, en vieillissant, et je prends un médicament qui me tranquillise, en fait, qui font que mes émotions sont moins hors de contrôle, en fait. Enfin, c'est vraiment le but du lithium. Et du coup, d'avoir des émotions qui sont moins hors de contrôle, bah forcément, ça me pousse moins à péter les plombs et à me blesser, ou à, tu vois. Donc ça m'aide, en fait, vraiment aussi à ça. Après, j'allais dire, au-delà du médicament et tout ça, bah, y a la thérapie aussi, quand même, qui a un peu payé. Et puis, l'art, encore une fois, enfin, d'avoir cette voie de sublimation.
Et d'expression de soi.
Bah, moi, y a plein de moments dans ma vie, bon, on en parlera peut-être plutôt sur l'épisode sur l'art, mais où je me suis dit dans ma vie, ok, soit je me tue, soit j'écris un livre où je vais au bout de ce texte qui est en cours, où je mets tout dans la peinture. Enfin, à un moment donné, il y a ce truc, c'est un sursaut de vie chez moi, quand j'ai envie de me flinguer, quand je suis vraiment suicidaire, il y a un truc qui me dit, bah, ok, tu sais quoi, t'as envie de te flinguer, bah, avant d'aller au bout du truc... Essaye au moins d'achever ce texte qui est en cours depuis 6 mois, tu vois. Si vraiment tu arrives pas à essayer...
Ça, c'est super, quoi.
Bah, c'est une grande bonne force, ah, parce bah, que c'est énorme. C'est ce qui fait que je ne suis jamais allée au bout. Et ta mix, t'es née de ça, hein. J'étais à deux doigts de me foutre en l'air, en fait. Et il est né de ce truc de... Mais voilà, finalement, je me suis pas foutue en l'air, j'ai fait ça.
Oui, c'est ça, faire quelque chose aussi, ouais. De cette faille-là, ouais. Finalement, plutôt que de tout arrêter,
c'est ça.
En faire quelque chose. Mais,
en tout cas, essayer une dernière fois, voilà, avoir ce dernier, se laisser ce temps de... Et puis, qui sait, pendant ce laps de temps, tu peux peut-être
changer, temps de possible,
peut-être changer ta vie, en fait.
Oui, puis la vie est pleine de surprises aussi.
Oui, tu peux rencontrer quelqu'un qui va changer ton machin. Tu peux travailler sur un truc qui va t'ouvrir à un monde absolument passionnant.
Ou même ressentir d'autres choses aussi.
Qui ou ressentir d'autres choses, voilà, tout à fait. Moi, je sais, voilà, pour répondre à ta question, si ta question, c'est quand t'as envie de te faire du mal ou quand t'es tellement sur le point d'exploser que soit tu fais du mal aux autres, soit tu te fais du mal, qu'est-ce que tu fais? Bah, ouais, moi, ma réponse, en général, c'est ça. C'est, y a un truc qui switch, en fait, je me laisse pas la possibilité, en fait. Je prends mes pinceaux, je prends ma peinture et j'évacue ce que j'ai à évacuer déjà pour commencer, en fait.
Moi, j'ai pas ce truc, tu vois. Après, tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un médicament qui t'aide à...
Oui.
Avoir un peu le contrôle.
Plus de maîtrise. Ouais.
Plus de maîtrise. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas... Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas besoin de... de médicaments pour maîtriser ça, sauf que je passe par une grande répression, en fait.
Ouais,
okay. Et que du coup, c'est quand même très, très, très douloureux de réprimer...
Bah oui. Et puis surtout, d'où l'importance de pouvoir le ressortir ailleurs différemment.
Et voilà. Et moi, le problème, c'est que pour l'instant, ça ne ressort pas ailleurs et que je continue de faire de gros meltdowns et de grosses crises. Et alors, je casse plus d'objets, plus trop. Mais je continue de taper avec mes mains et tout ça. Je continue de me faire mal, mais je pense que je trouverai peut-être un moyen. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait peur. Parce que je me dis, je réprime ces choses-là. Pour l'instant, ça ressort. Voilà, je tape et je pleure et tout ça. Mais j'ai peur qu'un jour, je le vois pas venir, tu sais. Et paf, ah, ben, il n'y a plus de mari. ça, c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Et en même temps... Là, tu vois, je dis ça en me connectant vraiment au pire des sentiments que je peux ressentir. Sauf que ce sentiment-là, c'est pas le seul sentiment que je ressens dans ma vie, en fait. Il y en a tellement, tellement, tellement d'autres. Et là, des fois, je me dis, mais heureusement que je suis autiste et que j'ai des obsessions, tu vois, qui me... Alors oui, tu vois, je disais que j'avais pas l'art, mais en fait... Si, en fait, j'ai plein d'intérêts spécifiques qui me tiennent. Tiennent. Et tu vois, je pense à certains borderline qui n'ont pas ça. Ouais. On a une chance quand même, mine de rien, de...
Ah, moi, c'est toujours ce qui m'a sauvé la vie, hein, clairement. D'avoir un truc... d'avoir aussi ce besoin d'aller au-delà, en fait, de moi-même, en fait. Je sais pas comment dire, tu vois, ce truc de transcendance, en fait.
Mais ça, clairement, je pense que c'est un... tu vois, dans l'autisme, je pense qu'il y a, ça. Il y a ce truc de... on n'est pas forcément attaché à notre identité aussi, tu vois. On est attaché à ce qu'on ressent.
Ouais.
Et à ce qu'on...
Et la connexion qu'on a avec la vie, en
voilà,
fait.
Et avec la matière. Et ouais. Toi, t'as vraiment ce truc aussi. Et moi aussi, d'une façon différente, encore une fois, mais... et c'est pour ça que je disais, encore une fois, peut-être que notre force dans le trouble borderline, c'est peut-être notre neuroatypie, en fait.
C'est peut-être l'autisme, hein.
On n'avait jamais abordé ça, hein. C'est marrant, hein. C'est marrant.
Tu sais, je pense que le médecin que tu avais vu au CRA, je pense qu'il était vraiment pas vraiment formé, en fait. Enfin, d'ailleurs, quand il t'a dit « Oui, vous savez, des différentiels, on en fait, mais pas vraiment dans les règles de l'art. » Bah, la preuve, en fait. Parce que... sous les yeux, il avait quand même ton dossier qui disait que tu as été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité borderline, mais il n'a pas vraiment pris en compte, en fait. Enfin, tu vois, là, je relis la phrase qui dit « La présence du TPL peut aussi créer un profil d'autisme différent qui peut ne pas rentrer dans les grilles de diagnostic s'il y a un diagnostic d'autisme à l'âge adulte et si la comorbidité n'est pas prise en compte. » Et c'est exactement ça. Et tu vois, quand il a pensé que tu étais TDAH, le TDAH est vraiment confondu avec le TPL aussi. Et ça se trouve, il avait juste à prendre en compte le fait que tu as un trouble de la personnalité borderline, en fait. Il n'a pas pris en compte tous les éléments. Et ça, mais c'est super violent. Enfin, c'est pas professionnel, c'est violent. C'est, Je comprends pas. De toute façon, je comprendrai jamais ce qui s'est passé.
Déjà, il faudrait voir la proportion de neuroatypiques chez les borderline, qui doit être, à mon avis, bien, bien, bien importante. Vraiment très importante.
Non, mais tu vois, c'est pour ça que, en fait, quand il y en a qui classent le trouble borderline dans la neuroatypie, voilà, mais ça me questionne encore une fois. Enfin, est-ce que du coup, on n'a vraiment pas encore assez de connaissances du trouble borderline et du coup, en fait, on est des borderline qui pensent que être autiste, en fait, ou est-ce que on est des autistes qui se sont crus borderline pendant longtemps et ou alors est-ce qu'on a les deux? Moi, je pense que j'ai les deux. Je pense avoir les deux, en fait.
I was going over the Cock and Carry Mountains. I met with Captain Farrell and his money he was counting.
Ça se dit pas, la saga de l'été.
Qui me paraissait limpide et clair comme de l'eau de roche et évident il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui, ça marche pas plus du tout en fait. Et je me dis, mais combien de personnes borderline sont persuadées d'être borderline ils sont peut-être soit autistes, soit autre chose en fait aussi.
Et que, en fait, à quel point l'autisme et le trouble borderline peuvent se confondre. Et je pense que là-dedans, il y a ce truc de dépendance affective. Il y a aussi, du coup, ces relations, cette intensité dans les relations. Il y a, enfin, c'est aussi de l'autisme, en fait. Enfin, ça peut être de l'autisme, en fait. Le vide, le machin, tout, en fait. Tous les critères peuvent être... C'est pour ça que je pense que c'est important d'analyser en nous la base de la chose, quoi. Et c'est pour ça que là, je le mets sur papier, parce que j'ai besoin de le poser.
Et puis, évidemment, dans le trouble de la personnalité, ta personnalité, et je trouve que ça dit bien à quel point ces problèmes émotionnels sont imbriqués, en fait, à tous les niveaux, tous les stades de la personne et de la construction de la personnalité. Donc, c'est inextricable comme truc. Enfin, c'est pour ça que c'est si complexe, quoi.
Mais tout ça, comment on dit bonne chance en croate ?
Nek te sreća prati.
Ça se dit pas.
Tu crois que les kiwis mangent des kiwis ?
Alors, je sais pas si les kiwis mangent des kiwis, mais c'est fort possible parce que ça mange des fruits. En fait, ça mange des petits insectes qui trouvent la nuit comme ça, paf, 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 dans le sol. Et ça mange, ça complète son alimentation avec des fruits. Et généralement, vu qu'il peut pas voler, qu'il peut pas aller trop haut, il mange des fruits qui sont tombés au sol. Et donc, c'est fort possible qu'en Nouvelle-Zélande, il croise des kiwis sur sa route. Donc les kiwis mangent peut-être des kiwis.
Ça se dit pas.
Ça se dit pas, en fait.
Ça ne se dit pas.